Il est 6 heures presque 4 minutes à la météo aujourd'hui. Ce qu'on prévoit, c'est du soleil, mais du temps froid. Il va faire moins 14, mais avec le vent, là, il pourrait y avoir des vents de 20 km à l'heure aujourd'hui. Le refroidissement éolien pourrait atteindre moins 30 ce matin, moins 23 l'après-midi. Alors, ce soir et cette nuit, ce sera dégagé. Il fera encore froid avec moins 18. Et pour samedi, c'est du soleil avec moins 4 degrés, donc beaucoup plus confortable. Et la fin de semaine aussi, là, va être, en fait, les jours suivants vont être assez confortables aussi. Dimanche, des nuages, plus 1 degré. Et pour lundi, c'est du soleil avec moins 3. En ce moment, à Montréal, il fait moins 21 degrés. Ça tranche avec hier, à la même heure, faisait moins 2. Il faut être fait fort au Québec. Bon, et bien, dans les différents quotidiens, ben, on s'y attendait. Là, on savait que Guy Nantel allait se lancer dans la course là, parce qu'il avait, il n'avait pas laissé beaucoup de place à l'imagination dans la convocation qu'il avait faite à la permanence du Parti québécois hier. Alors, Guy Nantel, hier, a commencé à défendre le sérieux de sa candidature, dit-on dans le Journal de Montréal. Moi, je l'ai entendu hier sur plusieurs tribunes, surtout sur nos ondes ici, entre autres avec Bernard Drainville, M. Nantel, n'est-ce pas, a défendu le fait que c'est un humoriste et puis qu'il se lance en politique. Selon lui, il n'y a pas de problème avec ça. Il a comparé le passé de Justin Trudeau, lui qui était prof de théâtre et qui est devenu premier ministre. Alors, il dit pourquoi pas. Et là, ben, dans le Journal de Montréal, on a servi la médecine de Guy Nantel. Guy Nantel est connu pour ses fameux quiz qui faisait passer aux gens là sur la connaissance générale, mais aussi la politique. Et puis, c'était toujours drôle. Alors là, le Journal de Montréal lui a posé quelques questions sur le Parti québécois, sur l'histoire du Parti québécois. Il s'en tire avec un résultat de 60%, M. Nantel. Il n'a pas eu toutes les bonnes réponses. Mais il faut dire qu'il y a quand même des choses où il était relativement proche. Alors, dans quelle circonscription René Lévesque a-t-il été élu pour le Parti québécois en 76? Dans Taillon, il l'a eu. Par contre, quelle était la date du référendum de 1980? Il s'est trompé de quelques jours. Il a dit le 9 ou le 16 mai, c'était le 20 mai 1980. Quels députés ont quitté en bloc le PQ de Pauline Marois en 2011? Il a eu Pierre Curzi, mais il a mis Bernard Drainville là-dedans, et c'était pas le cas. C'était Lisette Lapointe et Louise Beaudoin. Bref, il y a quelques réponses comme ça qu'il n'a pas eues, mais évidemment, le test était assez compliqué. Mais nous aussi, on s'est livrés à ce même jeu du Vox Pop. Annie Guillemette, notre journaliste à la salle des nouvelles, est sortie dans la rue et a demandé aux gens ce qu'ils pensaient de Guy Nantel.
Guy Nantel? Ah, je sais bien pas c'est qui.
Vous connaissez pas?
Pas en tout. Je sais qu'il s'en va en politique, là, mais je pense pas qu'il réussisse bien, parce que tu sais.
Qu'est-ce qu'il a fait avant?
Ah, il faisait des jokes avec des messieurs, puis il demandait des questions sur le Japon, là.
Qu'est-ce qu'il fait de beau de ce temps-là, savez-vous?
Ben là, je sais qu'il a annoncé ce matin qu'il allait se lancer comme chef du Parti québécois.
Vous êtes contente de le voir, là?
Je suis indifférente.
Selon vous, est-ce que c'est le président de Bombardier, un athlète olympique ou un humoriste qui fait de la politique?
Je peux rien vous dire, je ne sais pas.
Guy Nantel, c'est un humoriste. Il se présente pour le Parti québécois, là.
Qu'est-ce que ça vous dit de le voir en politique?
Aucune idée, là. On verra avec le temps.
Guy Nantel, c'est un... je suis pas sûr.
C'est un athlète, un homme d'affaires, un avocat, un clown?
Je pense que c'est un homme d'affaires. Ouais.
T'es à quelle compagnie?
C'est-tu... du proprio?
Connaissez-vous ça, Guy Nantel?
Pas du tout.
Vous savez pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie?
Non, je sais pas du tout.
Connaissez-vous ça, Guy Nantel?
Je pense que j'ai déjà vu des vidéos de lui sur Internet. C'est un humoriste à la base, non?
Mm-hmm.
Parce qu'il se lance dans la politique, je crois. Et je trouve très drôle, quand même.
Alors, Guy Nantel serait le président du proprio, que tu veux. C'est comme ça. Alors, bon, M. Nantel disait hier à Bernard, « Oui, mais moi, je suis une personne qui est une personnalité assez connue, mais il faut qu'il travaille encore un peu, parce que c'est pas tout le monde qui le connaît. » C'est normal, remarquez. Bon, alors, toujours dans le Journal de Montréal, on a transféré au Journal de Montréal le fameux palmarès des écoles primaires. Hein, il le présente depuis quelques années. Avant, c'était l'actualité qui faisait ça. Maintenant, c'est le Journal de Montréal. Et là, on a étendu l'exercice au cégep. Et on a donc demandé les résultats des différents cégeps dans plusieurs disciplines pour essayer de dresser un palmarès. Quels sont les meilleurs cégeps au Québec? Eh bien, sachez que les cégeps anglophones trônent en tête de ce tout premier classement réalisé par le journal sur les différents cégeps. Ça permet donc de comparer le taux de diplomation de chaque cégep dans les trois programmes préuniversitaires les plus répandus, également des techniques. Si on se fie à la conclusion du journal, ce palmarès démontre que les étudiants qui fréquentent les institutions anglophones réussissent mieux. Pour vous donner le tiers des cégeps qui figurent dans le top 3 sont des établissements anglophones, alors que ces derniers ne comptent que pour 13% des collèges publics au Québec. Alors, pourquoi est-ce que les anglophones semblent mieux réussir? Eh bien, certains pensent que c'est peut-être le fait d'une communauté qui est serrée, donc, et qui met de l'emphase sur l'importance de réussir à l'école. Alors, c'est peut-être une des raisons. En tout cas, le palmarès complet des cégeps sera publié demain dans le Journal de Montréal. Bien sûr, on parle beaucoup de ce qui se passe à la grandeur du pays avec les trains, parce que le blocage qui est fait par les Premières Nations un peu partout au Québec, en Ontario et à la grandeur du Canada a créé une crise nationale. Ils ont réussi avec une poignée de manifestants à interrompre le service ferroviaire de Via Rail dans l'ensemble du pays. C'est pas rien, c'est grand le Canada, là. Et également, le CN a annoncé hier qu'on annulait ou qu'on arrêtait le trafic ferroviaire dans l'est du pays. Alors, la crise des blocus autochtones va donner davantage de maux de tête aux milliers de voyageurs qui sont pris dans différentes gares du pays. Il y a des exemples ce matin dans les différents quotidiens. Pendant ce temps, François Legault dit à Justin Trudeau, mais là, il faudra peut-être que tu t'occupes de ça pour régler le problème. Mais il y a un article intéressant ce matin d'Isabelle Lâché dans la Presse Plus. Elle s'est rendue en Ontario où il y a des blocus là-bas également. Et l'article démontre que, en fait, c'est pas une... tu sais, on aurait pu penser que c'est des gens hyper organisés puis qui avaient tout prévu puis qui ont fait des grandes réunions pendant des mois et des mois puis que... Et là, il y a des centaines et des centaines de personnes qui bloquent les... Mais c'est pas ça du tout. Elle raconte ce matin dans son article, elle dit « C'est d'abord le drapeau rouge des Warriors que l'on aperçoit au bout du chemin de campagne enneigé où elle s'est rendue à Tiendanaga en Ontario. Elle dit « C'est le symbole de la résistance Mohawk. On y est, au cœur de la rébellion autochtone qui paralyse une grande partie du transport ferroviaire au pays. » Et là, elle dit « Ce qui frappe surtout, c'est la modestie de l'insurrection. » Son aspect broche à foin, les manifestants ne sont qu'une vingtaine tout au plus. Ils sont mal organisés, ils n'ont pas l'appui de la police ni de leur conseil de bande là-bas, mais ils sont en colère. Et donc, cette poignée de contestataires a forcé l'annulation de centaines de départs de trains. C'est dire à quel point, évidemment, ils ont du poids. Le problème, c'est que on a beau dire, mais là, même s'il y a des injonctions là, en Ontario, ils ont une injonction qui a été prononcée par la Cour supérieure pour... empêcher de bloquer les voies ferrées. C'est évident que les policiers veulent pas débarquer là avec leurs gros souliers et commencer à jouer les matamores. On se souvient tous de ce qui s'est passé à Oka en 1990. On va aller dans la circulation avec Marc. Merci, Marc. Bien sûr, hier, on a beaucoup parlé de Bombardier en raison de ce délestement, si on veut, de ses parts dans la C-Series. On a donc distribué le 33% au gouvernement du Québec qui maintenant détient 25% de participation dans la compagnie qui a été créée pour gérer le C-Series, qui est maintenant le A220, le A230. Et donc, on a moins parlé peut-être des résultats financiers de Bombardier. Or, ce matin, on en parle parce qu'il y avait une réunion hier, bien sûr, très importante. Bombardier a comptabilisé une lourde perte au terme de son exercice financier. Des revenus consolidés de 15,8 milliards de dollars. C'est en baisse de 3% par rapport à l'année précédente, mais au final, le résultat net prend la forme d'une perte de 1,6 milliard de dollars. C'est beaucoup d'argent. Comment on va renflouer tout ça? Bien sûr, avec les différentes transactions qu'on a faites au cours de l'année. Vous savez qu'on a vendu, en fait, la participation qu'on avait dans les fameux CRJ. Ça a été cédé à une entreprise japonaise. On a cédé également les CL-415, les fameux Canadair, à la compagnie Viking Air dans l'ouest du pays. Et le désistement de la C-Series, ça fait en sorte qu'on a réussi à créer une espèce de flux de trésorerie qui va permettre de rencontrer, si on veut, les obligations de Bombardier relatifs à son importante dette de 9 milliards de dollars américains. Alors, pour l'instant, ça va, mais là, on attend toujours de savoir officiellement ce qu'ils vont faire avec la division ferroviaire, la division transport qui pourrait être vendue à la compagnie française Alstom. Bon, dans d'autres nouvelles, on a beaucoup parlé de cette histoire à Québec. Où une dame, Marilyn Lévesque, qui travaillait dans un salon de massage, a été assassinée dans un hôtel par Eustachio Galese, un homme qui était sorti de prison préalablement, en fait, qui était en liberté conditionnelle, et à qui on avait donné le droit, en fait, la permission de fréquenter des salons de massage pour assouvir ses besoins sexuels. Et on sait que ce gars-là, quelques années auparavant, avait assassiné sa femme. Alors, évidemment, ça fait beaucoup jaser. Et là, la police de Québec a tenté de faire progresser son enquête sur le meurtre de Marilyn Lévesque hier. On a fait une perquisition dans le salon de massage érotique, le Gentleman Paradise, où la victime travaillait. Et donc, selon les informations qui ont été obtenues par le quotidien Le Soleil, la police de Québec a obtenu un mandat de perquisition pour obtenir les images des caméras de surveillance du salon qui est situé sur la rue Branly dans l'arrondissement Sainte-Foy. Et sur place, les enquêteurs ont saisi les caméras et les disques durs des ordinateurs. On veut savoir, bien sûr, les allées et venues de Galese durant les jours qui ont précédé les tristes événements. Et vous savez, on parle beaucoup de violence au hockey. Là, il y a la Ligue de hockey junior majeur qui s'apprête à voter un règlement pour interdire les bagarres dans la Ligue. On est rendu là. C'est pas tout le monde qui comprend que le sport amateur devrait, on devrait être des exemples. Il y a un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey qui s'appelle Philippe Audette qui a pas compris le message. Il a 42 ans, il a joué pour les Red Wings de Détroit et c'est l'entraîneur en chef de l'équipe Pee-Wee qui évolue au sein de la Ligue de hockey préparatoire scolaire. Il a écopé d'une suspension de 4 matchs. Quand il a contrevenu à un règlement en vigueur appliqué par Hockey Québec, il a lancé une bière sur un arbitre. Tu sais, à un moment donné, je comprends là, que les esprits peuvent s'échauffer dans le feu de l'action, puis même chez les jeunes, là, suffit d'avoir passé un peu de temps dans les arénas pour comprendre que c'est pas tout le monde qui a la même, comment dire... Il y en a qui n'ont pas de génie, disons ça comme ça. Les événements reprochés sont survenus lors d'un tournoi qui se déroulait le 6 et le 9 février dernier. Et après un bon début de tournoi, ça se passait en Beauce. Eh bien, l'équipe, évidemment, a connu quelques difficultés. Puis là, évidemment, on blâme tout le temps les arbitres. Alors, ce qu'il a fait, c'est que ça a dégénéré vers la fin du match. Il y a un règlement qui prévoit qu'aucun joueur n'est autorisé à sortir du banc. Les joueurs ont sorti du banc en premier. Finalement, il y a eu une escalade. Il a pris une bière, puis il a lancé ça sur un arbitre. Alors, il mérite sa suspension, je pense. Et c'est pas un très bel exemple à donner à nos jeunes. Surtout que tu es un ancien joueur de la Ligue nationale. Tu es un peu comme un dieu pour ces petits gars-là qui rêvent tous, eux aussi, de jouer un jour dans cette fameuse ligue. Alors, si tu agis comme ça, pas sûr que l'exemple est le meilleur. Dans le journal de Gazette ce matin, vous avez été nombreux sans doute à trouver que cette année, il y a eu beaucoup de retard à la STM dans les différents services qu'ils offrent, notamment les autobus. Eh bien, sachez que c'est la pire année depuis 20 ans en ce qui a trait au retard des différents autobus. Alors, l'an passé, 77,2% des autobus de la STM sont arrivés à temps et c'est le plus bas niveau depuis les 20 dernières années. Il y a des statistiques dans le journal ce matin, tandis que je les retrouve là. Bon là, je trouve pas, j'ai comme perdu ma page. Ah là, ici. Bon, voilà. Alors, en 2019, 77,2% des autobus sont arrivés à l'heure et d'année en année, c'est pire, tu sais. Alors, en 2010, 83% des autobus arrivaient à temps. Après ça, c'est devenu 82, 81, 80, 79, 77, que se passe-t-il à la STM pour que les autobus arrivent de plus en plus en retard? Eh bien, plusieurs pointent du doigt le fait qu'il y a de la construction sur les... C'est vrai qu'à Montréal, il y a beaucoup de construction, là. De la construction, mais il y a aussi eu un hiver difficile l'année passée, semble-t-il. Ça fait en sorte que les autobus sont arrivés un petit peu plus tard que prévu. Et comment on fait pour déterminer si un bus est à l'heure? Ben, on dit, si le bus arrive une minute avant le temps ou trois minutes après le temps, ben là, il est considéré comme étant en retard. Alors, donc, dans le cas de la STM, on admet qu'il y a quand même de l'amélioration à y apporter. Et tiens, j'ai envie de terminer avec cette information. On a beaucoup entendu parler au cours de la dernière année des cas de jeunes ou de qui vapotaient aux États-Unis et qui il y en a qui sont morts. Il y a une soixantaine de décès aux États-Unis qui sont directement liés au vapotage et on avait peu de détails sur ce qui se passait au Canada. Or, il y a 6 personnes qui ont contracté une maladie pulmonaire grave liée au vapotage au Québec au cours des 6 derniers mois et dans tous les cas, les patients n'avaient pas consommé de produits contenant du cannabis. C'était surtout des produits légaux là, qui contiennent de la nicotine. Alors, il y a quand même des dangers à ce fameux vapotage qu'on croyait au départ inoffensif, mais on se rend compte que de plus en plus, ben ce n'est pas le cas. Depuis septembre, le Canada a commencé à comptabiliser les cas de santé publique liés au vapotage et les informations disponibles jusqu'à maintenant laissent croire que la situation est différente ici que chez nos voisins du Sud. Là-bas, eux, c'est davantage lié à un produit qui associé à l'acétane de vitamine E, un produit qui est utilisé dans certains liquides de vapotage qui contiennent du THC. Mais chez nous, c'est vraiment les produits légaux qui sont visés. Donc, il y a des risques à vapoter. Ce n'est pas juste de la vapeur d'eau que vous inhalez. Il est 6h21. Sur la Couronne-Nord, Marc.